Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Karen Rutledge, Zohan Levracha. Alors il y a actuellement sur le marché un bruit qui court, comme quoi il y aurait un Zohar parlant de l'assassinat de 5 justes dans une synagogue du Sud. Effectivement, Jérusalem par rapport à Israël est au Sud. Et si le Zohar est écrit dans le Galilée, le Zohar est écrit dans le Galilée, dans le nord du pays, donc on est reçu par rapport à l'endroit de la rédaction du Zohar, et que 32 jours après, une guerre va éclater des Arabes, Ishmaël, les Ishmaélites, contre le Mashiach. La guerre de fin de temps, ça tombe en plein dans Hanouka. Évidemment, les gens, quand ils entendent ça, sont intéressés. Alors j'ai obtenu la source du Zohar, et je voulais l'amener pour voir que c'est, vous montrer que c'est pas ça.
Ah,
c'est pas ça. Voilà, il ne faut pas croire n'importe qui dit n'importe quoi. Enfin, on va voir ensemble et vous direz ce qu'on fait. C'est pas génial, quoi.
Déçu, hein?
Non, pas déçu. Mashiach vient de toute façon. Ça, on est en plein. Maintenant, quand? Bon, je mets un zéro. Alors, la Shrina va aller et va revenir. On est en plein dans l'histoire, là, en plein dans le feu de l'action. Va revenir chez Moshe pendant 70 jours. À la fin de 70 jours, les cris de Bnei Israël vont monter devant le roi saint, Hachem, à cause de tout, parce qu'on va leur faire des tsars, des problèmes dans tous les côtés, tous les points cardinaux, tous les côtés du monde, on leur fera des problèmes. Comme aujourd'hui. Partout où tu vas, tu n'es plus en sécurité. Si tu es juif, quelque part dans le monde, tu es déjà en danger. Et Knishta Chada. C'est quoi Knishta? Chada, c'est un. Knishta, les gens, ils ont Knishta, c'est Knesset. C'est quoi Knesset? Une synagogue. C'est faux. Et là, dès la première heure, c'est Bet Knesset. C'est une synagogue. Knesset signifie une communauté. Bet, la maison de la communauté. Bet Knesset. Et là, le traducteur en hébreu, parce que c'est de l'araméen, il traduit en hébreu, il dit bien Ve'eda. Eda, c'est une communauté. Et une communauté dans le sud, va être détruite. Et 5 tzadikim vrais, authentiques, seront tués parmi eux. Donc, c'est pas qu'on a dit 5 tzadikim dans une synagogue, c'est 5 dans une communauté. Keden, et alors, après 32 jours que seront tués cette communauté, Dieu va s'habiller de vengeance et se vengeance pour le petit chauffard qui est la Shrina. C'est du Zohar, hein, c'est beaucoup de choses imagées. Attends, on va voir, on va lire ensemble.
Vous avez fait la communauté, on peut écouter la communauté
Ashkenaz. Ouais, ok, si tu veux. Elle a été détruite, la communauté Ashkenaz s'est détruite. Pas détruite, non, vivante. 5.
Il y a un Druze parmi eux.
En plus, bon, lui, on peut dire aussi qu'il était. On peut dire que c'est un sadique. Il est venu pour sauver, il est mort, le pauvre. C'est pas. On peut. Ça peut encore passer. C'est vrai qu'il y a aussi une question là-dedans, mais bon, ça on peut encore passer. La suite. Le petit chauffard, qui est la Shrina, va sonner 3 fois en haut de la montagne, comme au début. Et alors, on verra les drapeaux de ce Mashiach. Et il y aura un grand bruit dans le monde par ces bruits de chauffards. C'est aussi ça à la mode dernièrement. Et tous les peuples de la terre verront et entendront. Comme il est écrit, il y a maintenant un verset de Yeshayahu. Kol shvetevel veshorne aretz kinsone sarim tirou chatot korah shofar tishman. Tous les peuples de la terre, vous verrez comme un drapeau qui se lève et comme un son de chauffard, vous allez entendre. Et alors, toutes les forces du mal de la terre, de la terre d'Israël, vont disparaître. Et les fils d'Ishmaël vont faire 3 guerres contre ce Mashiach. Et après, ils viendront et se prosterneront devant le maître du monde dans la montagne sainte de Jérusalem. Et ces guerres auront lieu dans le 6e millénaire. Et le mois de Boul, c'est le mois où il y a le Maboul, c'est donc le mois de Cheshvan, qu'on a quitté, on est maintenant déjà le 4, on est déjà le 4 qui s'avait 4 jours, on n'est plus dans le mois de Boul. Tomberont les ennemis d'Israël, et toutes les forces du mal disparaîtront de la terre d'Israël, et de là-bas ils partiront en guerre dans le monde entier. Non, de là partiront, il y aura, se réveilleront des guerres dans le monde entier. Et pendant qu'il y aura ces guerres-là, vont se réunir tous les fils d'Édom, les Européens, avec l'Amérique aussi peut-être, l'Europe, en tout cas l'Occident, contre la terre sainte et vont la conquérir. Ils habiteront pendant 12 mois. Vous voyez la suite ? Il y a des kilomètres, hein ? Après 12 mois, la terre va trembler dans le monde entier. Et pendant ce temps-là, la Shrina va revenir dans la grotte de Moshe Rabbeinu. Le roi Mashiach va se cacher pendant 9 mois, comme une femme qui accouche, qui est enceinte pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il y aura beaucoup de souffrance pour la Kappara, pour expier les fautes d'Israël. Donc il recevra sur lui le Mashiach. Ouais, le Mashiach prendra sur lui beaucoup de souffrance pour expier les fautes du peuple d'Israël.
C'est-à-dire que c'est sûr que c'est vrai que
l'Israël va être conquérie. Non, alors ce sont toutes des éventualités, tout à fait éventuelles. Comment dire cela ?
Pas faire, c'est aléatoire.
Aléatoire, potentiel.
Vous en pensez quoi ?
J'en pense rien.
Mais la date, elle est passée.
Voilà, c'est passé, c'est pas l'air, ça a l'air. C'est pas une synagogue, c'est une communauté entière dans le sud qui doit disparaître. Parmi eux, il y a 5-16 équipes. Peut-être qu'il y a une partie de vrai, que Dieu n'a pas fait tout, une partie de cela. Bon, tu sais, c'est pas compliqué, il faut attendre Hanouka. C'est Hanouka, tu vois que ça commence la guerre, 32 jours après.
Nous, on est. Référence à la Shoah.
Attends, on est mardi.
Une communauté entière.
Une communauté entière du sud. On parle du sud du pays, j'imagine, du sud. D'abord, le sud, c'est le nord, hein, plutôt la Shoah, c'est plutôt le sud, voilà. Parmi eux, 5 tzadikim, la Shoah, c'est 5 millions de tzadikim, d'accord. C'est pas. Et puis en plus, tu vois, si on compte quelques jours après, il y a une guerre avec Ishmael, 32 jours après la Shoah, une guerre avec Ishmael, on n'a pas du. Alors, fais le calcul, 32. Nous, on est maintenant exactement, on est mardi aujourd'hui, c'est exactement il y a une semaine, l'attentat. Mardi. Fais 32 jours en plus, ça te fera. C'était quelle date ? C'était environ Rosh Chodesh, c'était dimanche. Donc c'était Lamed, Kaftet, vendredi Kaftet, jeudi Kafret, mercredi Kafzain, Kavva, 26. 26 et 32, ça nous fait 26 le mois d'après, ça nous fait 26 et 2, ça nous fait 28. Troisième jour de Hanouka. Donc vers le troisième jour de Hanouka, tu vois que ça commence à chauffer, alors que peut-être c'est vrai. Donc il nous reste à attendre encore. 32 moins 7, 25 jours. Ok. Voilà, messieurs. Baruch Adonai, l'homme va amener. Des questions sur le sujet ?
Oui. Ça fait flipper, ça fait peur. C'est-à-dire, quand on prend pied à la lettre, il nous reste 26 jours pour faire tshuva, quoi, en gros.
Ça va. Surtout pour mes parents. Hein ?
Surtout pour mes parents.
Non, mais personne ne sait si c'est vrai, j'ai dit ça comme ça. C'est pas, ça a l'air d'être pas ça.
Admettons, c'est vrai, on voit une guerre, on fait quoi ?
Mais c'est certain que ça va, c'est absolument certain que ça va bientôt.
Oui, oui. C'est quoi là ? C'est un danger pour les gens d'Europe ? Les gens d'Europe sont plus en danger que les gens d'Israël ?
En danger partout. La Rav Yeshiva a déjà dit il y a quelque temps, un juif est en danger partout.
Vous pensez qu'on est plus en sécurité ici ?
Si on a le choix d'être en France ou en Israël, mieux vaut être en Israël, c'est clair. Ou Jérusalem.
Jérusalem.
Ouais. J'ai posé la question personnellement au Rav Ben Sanna Bashaoul il y a 30 ans, parce que la guerre qui va éclater lorsque Machar viendra, hein, sera une attaque du nord sur Jérusalem, comme c'est marqué dans Zacharie, fin 13, début 14. Ils viendront du nord. Maintenant, c'est clair qu'ils viendront du nord, parce que au sud, qu'est-ce qu'il y a au sud ? Au sud, il y a l'Égypte, ça va, ils ne sont pas trop méchants, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, bon, pas trop de problèmes avec eux. Par contre, au nord, c'est tous nos meilleurs copains. La Syrie, Hezbollah, le Liban, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Russie.
On dit qu'il y aura toute la Galilée de ceux qui va partir.
C'est, c'est écrit à la fin du traité Sota, page 49, que le Galil va être détruit. C'est juste. Personne ne sait comment ça sera exactement. Personne ne sait. Ce qui est clair. Alors je demande la question à Robin Sambachot, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'ils viennent du Nord, bon, on prend la voiture et on file dans le Sud. Parce que ça va être super désagréable ici. Et lui, il m'a dit, il n'a rien dit, il a fait comme ça.
On reste.
Ce qui signifie, on reste. Bon.
On reste, on
continue d'étudier. Voilà, chemin à voilà. Dans les abris, ou hors des abris, ceux qui resteront, hein. Parce qu'il y a un verset quelque part, c'est marqué que celui qui restera à Jérusalem sera appelé Kadosh. Saint. Parce qu'il y aura d'attention. Tu rentres tout de suite à la maison.
Et ceux qui viennent à Jérusalem, qu'on descend.
Hein? Bon, on verra, je ne sais pas où ça a commencé ici, parce que ça a commencé. Regardez, aujourd'hui le monde se trouve à. Il suffit de rien pour que tout parte en cacahuète. C'est quelques jours, il n'a qu'à faire comme ça. Tic, un millimètre de potentiomètre, voilà. Poutine, il dit, il est fou déjà. D'accord, il a pris la moitié de l'Ukraine. Demain, il dit, je veux encore un peu plus. Là, c'est, en une seconde, ça peut venir. C'est pas compliqué. L'euro, tac! Un peu il baisse, le dollar un peu il baisse, c'est la crise. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une crise? Le meilleur moyen, c'est de créer une guerre. Ça relance l'économie, le peuple qui est mécontent, au moins ça le focalise sur autre chose. Et il n'y a pas de meilleure focalisation que contre les Juifs, c'est toujours le bouc émissaire, c'est toujours le meilleur. On a bien monté depuis quelques années. Les affreux tortionnaires, nazis et autres qualificatifs tordus sur les Juifs. D'accord, on va maintenant venger les pauvres, nos pauvres frères palestiniens. Et voilà. Non, ça, c'est pas compliqué à voir. Comment ça aura lieu, j'ignore. Ce qui est clair, ce qui est très très clair, c'est que le mal ne veut pas que Mashiach vienne. C'est pourquoi il agit très très fort. Il se déchaîne. Il y a beaucoup de mal et il faut se battre. Maintenant, le seul moyen de parer au mal, il y a deux moyens. Ou on fait tshuva. On résiste et notre tshuva est suffisamment grande pour avoir suffisamment de mérite pour qu'il se taise, ou bien on n'est pas suffisamment méritant et il ne se tait pas, il exige du sang. Il exige du sang. C'est ce qui se passe. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, au lieu de faire partir 5000 ou 50 000 personnes, il fait partir 5 personnes. Sa grande miséricorde, au lieu que ce soit un attentat de 500, 5000 ou plus de personnes, alors, il est fait tuer 5 dans des conditions atroces qui font que tout le monde est complètement choqué. Je vous rappelle une petite chose quand même que les gens ont tendance à oublier. Que Hezbollah et Hamas ont projeté qu'à Rosh Hashanah de cette année, donc il y a 2 mois, il va y avoir une attaque dans les tunnels. Minimum, on pense 2000 morts il y aurait. 2000 morts. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a déjoué leur plan. Ok. Ok. Maintenant le mal dit oui, non, mais quand même. Quoi quand même, si ton peuple était super méritant, je veux bien, mais tu as fait des miracles comme ça et il y a des factures. Et bon, moi je veux bien qu'il n'y ait pas de facture, mais pas Mashiach. Maintenant, Mashiach vient, il faut qu'on soit clean. Tant qu'on n'a pas réglé tout ce qu'on a réglé, il ne peut pas venir. On doit régler tout ce qu'on a réglé. On a tout fait. Il n'y a plus de date, c'est terminé. Quand Mashiach vient, c'est un autre monde qui commence. Donc le mal, il dit non. Il dit oui. Et il y a une bagarre dans le ciel. Au bout d'un moment, Dieu va essayer de réduire la facture au minimum possible. Alors comment on fait ça? Au lieu de tuer beaucoup de monde, on en tue peu, on prend les tzadikim. Des gens super tzadikim, avec 11 enfants. Fanny Kopinski, c'est un type, toute sa vie c'est du chesed, que aider les gens. Il a été assassiné là-bas. Lui n'était même pas là-bas, il était au premier étage. Premier étage. Il a entendu les coups de feu, il est descendu. Il a attrapé le terroriste, on dit à tout le monde, fuyez, hurlez, ses enfants ont entendu, ils habitaient en face. Fuyez, fuyez, tivrechou, tivrechou. Et il s'est fait décapiter. Je crois même qu'on a décapité, pour faire dire même. Je sais pas, enfin, les trucs que je n'ai même pas voulu entendre tellement c'est affreux. Un type qui meurt comme ça maintenant, sa fille est née à 18 ans. Il a 11 enfants, et le bébé, le petit, il a 6 mois. 11 enfants. Il n'a pas un sou à la maison. Bon. Un type qui part comme ça. C'est terrible, c'est un choc terrible, c'est des conditions horribles dans le ciel. Ça fait, comme chez nous, ça fait du bruit, dans le ciel aussi. Maintenant, on prend ça en considération, on est triste, on fait tshuva, on arrête de penser à aller en boîte, on arrête de jouer au poker, on arrête de penser aux filles, on fait tshuva. Justement, tout, les gens commencent à se réveiller, c'est clair, un truc pareil, les gens commencent à agir, c'est clair. Et alors, le mal, il a reçu maintenant sa dose. Et maintenant, tu te la fermes, laisse-moi continuer. Et on peut continuer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne revienne pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ait le maximum d'impact? Faire tchouva, faire notre bilan, qu'est-ce que je peux arranger? On ne sait pas pourquoi ça arrive. Il y en a qui disent à cause des discordes, il y en a qui disent à cause du manque de snout, à cause de chacun ses raisons. Les grands rabbins disent personne ne sait. Et certainement, il y a tout ça à la fois. Donc que chacun fasse son propre bilan personnel et voir qu'est-ce que tu peux arranger. Pas faire des grandes révolutions. Tu peux arranger un petit truc en plus maintenant, c'est énorme. Parce que si 50 000, 500 000 personnes prennent sur eux un petit truc énorme, alors ma chère, il est là demain. C'est énorme. C'est énorme. Vous direz, ces pauvres gens, ils sont morts pour rien. D'abord, il faut savoir que c'est un grand mérite pour un tzaddik de mourir à Kiddush Hashem. Je vais raconter l'histoire de Rabbi Hanan Wasserman, qui était le élève de Hafetz Chaim. Un jour, il sort du bureau de Hafetz Chaim. Hafetz Chaim est décédé en 1933. Donc cette anecdote a eu lieu, entre 1920 et 1933, quelque chose comme ça. Et un jour, il sort du bureau du Rav, tout émotionné, mais rayonnant de bonheur. Et le Gabay, secrétaire, je vois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une tête pas habituelle. Là. Oui, le Rav m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Oui, quoi? Il commence à le tanner, à la fin, il dit, le Rav m'a dit que j'aurais le mérite de mourir à Kiddush Hashem. Ça veut dire assassiné. Comment un grand de Torah, il prend cette nouvelle? Comme un grand cadeau. Il n'y a pas de mérite plus grand que mourir à Kiddush Hashem. Mais non, mais peut-être il aurait pu encore pu. Pour finir, le Rav Echanan Wasserman a effectivement été tué en 1941 par les nazis dans le ghetto de Kovno. À Kiddush Hashem, lui, c'est Yeshiva. Vous me direz, ok, mais néanmoins, les orphelins, veuves, etc., et peut-être qu'ils auraient pu encore vivre longtemps à faire des mitzvot, on ne sait pas. Peut-être qu'ils auraient dû mourir le même jour en accident de voiture. Alors on a eu un accident effroyable de voiture, est arrivé, 5 morts. Ok, la vie continue, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Accident de voiture, c'est quelque chose qui est banal. Hachem a utilisé maintenant, je ne sais pas, peut-être, tout ce que je dis maintenant est tout à fait hypothétique, mais c'est certain que Dieu fait bien les choses, c'est ça le principe de ce que je veux dire. Le mieux possible, maintenant, Dieu a créé le monde aussi avec des forces de rigueur. C'est ça, les lois du monde. Il veut qu'il y ait du din, il veut qu'il y ait une justice. La justice fait que si on mérite, on reçoit, si on ne mérite pas, on ne reçoit pas. Et il faut des mérites, Et si on ne veut pas accéder à ces mérites de gré, on accède de force, ça veut dire par la souffrance. Ça existe aussi. C'est aussi un des principes par lesquels nous fonctionnons. Et hélas, on fonctionne comme ça depuis que le peuple juif existe, on fonctionne comme ça. Maintenant, tu me demandes, Dylan, comment on va faire, c'est paniquant, etc. Oui, c'est paniquant. Mais il faut beaucoup de confiance en Dieu. Je ne sais pas si l'année qui va venir sera calme. J'espère que non. Parce que si elle est calme, ça veut dire que la vie continue et ma chair ne vient pas. Si ça commence à chauffer, ça veut dire que c'est comme un accouchement. Alors ça fait peur. Demande à une femme, c'est bien d'aller à un accouchement? C'est bien ou c'est pas bien un accouchement? Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est bien. Mais tu as déjà entendu une femme qui accouche déjà, comment ça fait? Ça fait pas bien du tout. Hein. Donc ça fait très très mal et ça hurle. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Alors si on a confiance en Dieu et on fait tchouva, Berth Hachem, tout ira très bien. Sinon, alors Hachem ira sauver. Il y aura des épreuves de foi, comme cela entre autres. Beaucoup de gens, combien de gens m'ont écrit? Alors je comprends plus, mais alors si Dieu prend les tzadikim, il vaut mieux pas être tzadik. Si c'est comme ça, les religieux seront aussi touchés, mais vous n'êtes pas être religieux, d'accord, complètement à l'envers. Il faut être sadique, il faut être religieux, c'est ça qui fait qu'il y aura moins d'attentats et moins de mal. Mais néanmoins, comme j'expliquais, Dieu a ses critères pour fermer la bouche à l'accusation dans le ciel, de façon la plus avantageuse pour un Israël.
Là, on pourrait très bien dire que là, c'est pas de passer la date quand il y a eu le problème des missiles en Israël.
La date de quoi?
Quand il y a eu le missile, encore au mois d'août, etc., de l'homme de fer, etc., on pourrait très bien dire que c'est pas de ce moment-là.
Ce Zohar-là, regarde, encore une fois, des textes comme ça, dans le Zohar de Midrashim, t'en as 300 différents. Chacun avec son programme, avec son histoire. On ne sait pas de quoi ça parle. De plus, le Zohar parle de son très imagé, peut-être que ça parle de choses qui sont spirituelles et pas réelles. Donc à prendre très délicatement. À ce qu'on a lu maintenant, il semblerait que ça n'a rien à voir avec ces cinq. Le seul rapport qu'il y a entre le texte, c'est qu'on parle de cinq tzadikim. Ok. On parle d'une communauté qui est détruite. Il n'y a pas une communauté qui a été détruite. On parle d'une synagogue. On parle d'une synagogue. D'accord, c'est pas, c'est, les gens ont confondu Knishta et le Bet Knishta. Knishta, c'est une communauté. C'est ce que dit le Zohar. Bet Knishta, c'est une synagogue. Ils ont dit, les gens ont dit, il y aura 5 tués dans une synagogue. Oh, tiens, ça ressemble. C'est pas marqué nulle part, ça. C'est marqué 5 dans le sud. Dans une communauté sera détruite parmi eux 5 tzadikim. C'est pas du tout ce dont nous parlons. Attends, s'il s'avère que dans 32 jours pile, oui, ça commence, le monde entier, il fait boum, ok, alors peut-être qu'on a mal compris le Zohar. Ben, on attendra encore 25 jours et on saura.
Et de données du web, apparemment, c'est Mashiach qui est enterré dans une grotte, et Mashiach, le troisième, Ben Youssef, Ben David.
Oui, laisse qu'il est enterré dans une grotte. C'est toutes des notions, il se cache, et quoi, c'est tout. Le Zohar parle de façon imagée. Tu crois que le Mashiach est dans une grotte maintenant?
Non, Moshe est enterré dans une grotte.
Ouais, d'accord, ça va. Tout en image. Tout.
Et ma chère Benéfraim,
j'ignore. Je ne suis pas, moi, un féru du Zohar. Je suis un novice complet. Je ne peux pas faire de ma vie que je vous ce livre-là, le Zohar Hadash, de ma vie.
Du coup, de ceux qui voulaient envahir Israël le même jour, le jour
oui.
De Hachana, c'est vrai, ça
bien sûr, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Ken, même, Bibi, il en a parlé. Oui.
Qui c'est, Frère Jachalab, et du coup, de quelle manière on a... Qu'est-ce qui se passe là?
Je n'ai pas compris. Si on ne fait pas tchouva. Ils font tchouva, Baruch HaShem. Pas assez, tu veux dire. Comme j'ai dit auparavant, je répète ce que j'ai dit. Lorsque le mal exige. Parce que lorsqu'on fait des péchés, on fait des péchés. On donne la force au mal. Le mal, sa nature est de faire le mal. Il y a deux moyens de l'annuler. Soit on lui reprend l'énergie qu'on lui a donnée, c'est-à-dire l'énergie divine que j'ai fait partir dans le mal, je la reprends. Comment? Par tchouva. Tchouva signifie tachouv hei. Hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, qui correspond à la présence divine, la shrina, qui est en galouk, elle en existe. Quoi en existe? Elle est prise par le mal. Elle est prisonnière du mal. Chacun maintenant, il a des étincelles de son âme, qui sont des divines, qui sont cette lettre hei du nom de Dieu. Quand il fait un péché, il le donne aux côtés du mal. Tous les mots qui signifient péché correspondent à cette notion-là. Péché vient du mot en hébreu pécha. Pécha. Pécha, c'est une permutation des lettres shefa. Shefa, c'est un flux. On reçoit un flux de Dieu, de vie. Maintenant, je l'ai inversé. Au lieu de le prendre, de l'utiliser pour faire du bien, tac, je fais du mal. Par la shonara. La voix, par exemple, c'est une puissance de construction énorme. Par la voix, tu fais beaucoup de bien, tu fais du mal. Donc tu as pris le shefa, tu as pris et tu l'as rendu pécha. Tu as pris l'abondance, le flux, tu l'as rendu péché. Un rachat, un impie, c'est la permutation des lettres SR. SR, c'est 10. Le flux descend par le biais de 10 conduites, 10 canaux de conduite. Alors quand ça va tout droit, ça va, il a inversé ça. Ça va dans le mal. Carette, les pires péchés de la Torah sont sanctionnés par le karet. Karet, c'est la permutation du mot keter. Keter, c'est la couronne, c'est la voie de conduite la plus haute. Il touche au sommet de tout. Qu'est-ce qu'on a encore comme mot? Chet. Chet signifie raté. Quand quelqu'un est à l'armée, on tire. Grand secret militaire, ne répétez à personne. Dans le salle, on rate aussi la cible. D'accord? Ça arrive aussi. Alors on dit herteta et tamtar. Tu as raté la cible. Ça veut dire que tu as reçu maintenant un flux pendant la cible, tu as raté, boum, tombé à côté. Chet, c'est involontaire, c'est vraiment raté. D'accord? C'est un péché involontaire. Mais tu as raté la cible, le flux est parti où il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'on a encore comme mot? Pécha, avon. Avon, ça veut dire aivout, tordu. Les avet, avon, c'est parti tordu. Maintenant, ça veut dire quoi? On a reçu un flux divin qu'on a donné aux côtés du mal. Le mal, c'est la mort. Quand on nous donne de la vie, il devient un mort vivant. Un mort puissant. Un mort puissant, il fait le mal. Alors, il y a deux façons de le neutraliser. Ou bien on lui reprend toute l'énergie et il meurt. Il s'appelle Tchouva. Je dis, Dieu, j'ai péché. Je regarde ce que j'ai fait, j'arrête. J'arrête et si c'est grave ce que j'ai fait, je répare. Comment je répare? Étude de Torah. La meilleure réparation qu'il puisse y avoir. Pour les femmes, tzniout. Pour les hommes, étude de Torah. Deuxième façon de le neutraliser, il n'y a pas de Tchouva. C'est que l'énergie qu'il a, il va la dégager. Comment? Qu'est-ce qu'il fait le mal? Il fait le mal. Il tue. Il blesse, il casse des couples, il fait qu'il y a la pauvreté, qu'il y a des maladies, la souffrance. Qu'est-ce qu'il aime ? Le mal, il aime la souffrance. Alors maintenant, il a une énergie limitée en fonction des péchés d'Israël. Le jour où toute l'énergie est sortie, il ne peut plus faire le mal. Et il disparaît. Donc à nous de choisir.
N'empêche que c'est marqué rare que si on ne fait pas de chouva, on aura un roi perse.
On
aura un roi perse qui va nous faire des dégâts.
C'est marqué que si on ne fait pas de chouva, Dieu met contre le peuple d'Israël un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Et Haman venait de Perse. C'est un roi perse. Un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman, Haman qui voulait anéantir le peuple juif en un seul jour. On fera tchouva, de gré ou de force. Et ça s'appelle de force. Un tentat à cinq personnes s'appelle de force. Les gens font tchouva. Tu ne peux plus aujourd'hui, quelqu'un veut aller s'éclater une semaine de vacances à Haïti, d'accord ? S'il a un minimum de sensibilité, il annule ses vacances. D'accord ? Il reste à la maison. C'est plus propre qu'à Haïti. Par exemple, chacun. Au niveau où il se trouve. Quelqu'un voulait aller jouer aux cartes ce soir plutôt que de refaire sa gemara une dixième fois. Pour les familles des victimes, pour l'élévation de l'âme des victimes, il va encore étudier plus. Il va prier mieux. Toutes ces choses-là, hélas, c'est un moyen de réparation que nous ne souhaitons pas, que personne ne souhaite, si ce n'est que le mal, ni Dieu non plus. Mais comme je l'ai dit, Dieu a créé le monde avec le dîner, avec la justice. Pourquoi il veut cela ? Il ne veut pas donner gratuitement. Gratuitement, c'est rien. Il veut qu'on puisse être. Être, ça veut dire que je mérite. C'est à moi. C'est à moi. C'est moi-même qui ai droit et le mal ne peut rien dire. Tant que c'est gratuit, le mal peut dire, c'est pas à toi. Et raison, c'est un don. C'est pas juste. C'est pas juste que tu es. C'est pas juste. Nous, on veut recevoir de façon juste. C'est à moi. Tu ne peux plus rien dire. Donc, c'est marqué que même les tzadikim, c'est marqué que Dieu, il est médakdek. Dieu, il est précis avec Tzadikim, qui sera comme l'épaisseur d'un cheveu. Les Tzadikim veulent être jugés de la façon la plus dure qu'ils puissent avoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas le cadeau. Ils veulent être à un niveau très haut, très très haut, où là, il y a une exigence. Mais ils veulent cela. Ils veulent être, je veux mériter, par mon mérite, d'être au niveau le plus haut, sans aucun cadeau gratuit. Parce que le cadeau, ce n'est pas à moi. Et toujours on pourra me dire, hey, c'est pas ta place, mon cher ami. Donc je veux qu'on exige de moi pour que je puisse rêver tout ce que je peux. Plus que cela, on ne veut pas. Ken.
Parmi les gens qui sont là, ou même les gens de France ou d'autres, il y en a plein qui vont devoir faire l'armée. Et ils savent que, a priori, la guerre est proche. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? La mitzvah de défendre son pays ou la mitzvah de...
C'est clair, étudier, aucun doute là-dessus. Quelle question ? En aucun cas, le critère de victoire de la guerre dépend de la qualité des soldats. Ça n'a absolument aucun rapport. Et nous, âmes Israël, ayant vécu 2000 ans sans armée, on est bien placé pour le savoir. Les plus grandes armées du monde, les puissances supérieures ont toutes disparu. Et nous, petits peuples, sans rien, sous leurs bottes, on est toujours là. Qui est le crétin, et je suis gentil quand je dis que ce mot-là, crétin, qui va croire que parce qu'on a une bonne armée, on va gagner. C'est un leurre. C'est un leurre. Un moment. C'est un leurre. Alors, il y a Ishtadlout. Comme on sait que Dieu envoie la guérison, il y a un moment d'avoir un médecin, prendre un médicament. Dieu mène la victoire, il faut jouer la comédie, avoir une armée. Ok, maintenant il faut choisir. Est-ce qu'on veut faire partie des comédiens ou des véritables acteurs ? Parce que le critère de victoire de la guerre dépend de la sainteté du peuple. Plus il y a sainteté, plus il y a présence divine, plus on est invincible. Si Dieu est avec nous, on est invincible. Dieu n'est pas avec nous, on n'est pas non seulement invincible, d'accord ? On n'est pas seulement, on peut nous détruire, mais on n'a aucun mazal, on n'a aucune chance de survie. Rien. On n'a pas droit à la vie. On a un peuple qui n'a pas de mazal, on n'a pas le droit à la vie. Alors, vu que le critère de la victoire dépend de la sainteté, les grands héros des guerres d'Israël sont ceux qui amènent la sainteté dans le peuple. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Maintenant, tu as le choix. Quelqu'un qui n'a pas le choix, il ne sait pas ce qu'est la sainteté. Il n'est pas, il se calme. Okay. Alors qu'il a l'armée. C'est une mitzvah. Okay. C'est quoi la sainteté ? Comment tu vas perdre maintenant ? Perdre ton temps, ton énergie, le mérite que tu peux amener. On a besoin, sur le front, on a besoin de canons. Alors au lieu d'être un canon matériel qui ne sert à pas grand-chose, qui est que la comédie qu'il faut jouer, viens sur un vrai canon spirituel, duquel dépend la victoire. C'est clair qu'il faut plus de kedusha. Et Dieu nous le montre très bien. Tu as la meilleure armée du monde. La meilleure armée du monde. Je veux dire, tu dis, j'avais un copain, qui avait, il y avait des gens qui travaillaient dans SPCJ ou des choses comme ça, d'accord. Ils ont mis des fois des policiers français. Le policier lui a dit, vous êtes du Mossad? Oui. D'accord. Tu dis le mot Mossad, les gens sont comme ça, du genre... D'accord. Service de renseignement. Meilleur commando. Meilleur pilote d'avion. Meilleur tankiste. Meilleur cuistot. Tout ce que tu veux. Meilleur. D'accord. Meilleur armée du monde. Et tu trembles d'aller dans ta rue. Dans ta rue, là en bas. T'oses pas. À quoi t'as servi ton armée? Dieu nous montre. C'est pas ça qui va te sauver. Heureusement que Dieu est là et nous sauve, d'accord? Mais il nous montre toute la journée. C'est pas ça qui va... Alors je dis pas qu'il faut pas d'armée. Ne me comprenez pas. Il faut une armée. Parce que c'est pas maintenant les flics qui sont venus et qui ont tué les terroristes, alors ils sont encore en train de tuer dans les synagogues de Arnaud-Saint-Pin. On fait ce qu'on veut. C'est clair qu'il faut.
Une armée de
snatchinisme. Hein? Une armée de gens qui n'ont pas le choix d'être mieux. Celui qui a l'armée peut être que cuistot et pas commando, qu'il soit un bon cuistot. Il a un mérite d'être un bon soldat cuistot. Celui qui peut être commando à l'armée et se permet de rester cuistot parce qu'il ne veut pas être commando, c'est un non-assistance à personne en danger. Comment tu vas arrêter de cuistot alors que tu peux être commando? C'est non-assistance à personne en danger. C'est innommable. Si on était, comme je dis toujours, on est en Suisse, d'accord, moi je viens de Suisse, d'accord, 700 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en Suisse. Ok, tu veux être cuistot, sois cuistot. Mais Israël, on est en guerre, on a des ennemis dans le monde entier. Ami, Israël a besoin de sainteté. Tu vas maintenant, je dis bien, perds ton temps, je souligne, perds ton temps. Tout cela encore pour celui qui a le choix entre les deux, celui que c'est clair. Pour lui, il ne peut pas venir en Chiva, il ne peut pas être dans la Kedusha, ce n'est pas son monde du tout. Alors qu'il a l'armée, il fait une grande mitzvah par cela, il doit le faire. Celui qui a le choix, celui qui peut être commando, de quel droit il va être cuistot? De quel droit? Ken. Okay, je suis très moché parce que oui. Notre temps est passé il y a 2 minutes, donc je laisse 30 secondes. Parce okay. Que...
Juste, on voit qu'il y a de plus en plus de soldats haredi, religieux, voilà, sionistes et tout. Maintenant, ils vont avec la Emouna, tout ça à l'armée.
Très bien.
Que pensez-vous d'eux? Ça veut dire c'est des bons soldats et en même temps, ils ont la crainte de Dieu.
Je vais t'expliquer. Quelqu'un qui est pratiquant, s'il va à l'armée pas dans le cadre religieux, c'est complètement interdit. Parce que c'est une maison de passe, l'armée. Surtout dans les unités non combattantes. Garçon, fille, dans la même base, 18 ans, en 18 ans et 21 ans, qu'est-ce qu'on fait? Je ne te fais pas un dessin. D'accord. Ça, c'était de mon temps, il y a 30 ans. Aujourd'hui... Hein? Les combattants. Alors, tu as une employée pour 300. Alors, c'est... Si, si, il y avait une secrétaire, hein. Bien sûr.
Qui date?
Ça dépend. Où ça dépend quoi? Ça dépend comment, mon cher ami?
Cuisine,
ça dépend qui? Ça dépend cuisine, peut-être dans ton unité qui était bidon, peut-être chez toi, mais chez les autres. D'accord? En tout cas, c'est plus propre. Maintenant, quelqu'un qui va à l'armée dans une unité religieuse, alors, il ne fait pas de péché, parce qu'il n'y a pas de fille là-bas, et c'est cachère. Mange cachère, il y a un temps pour les prières, il y a un peu d'études, c'est cachère. Mais au niveau de sa puissance de feu dans la défense du peuple d'Israël, il est nul. Parce que pendant 24 heures, il fait combien de Torah? Une demi-heure. Et je suis gentil quand je dis ça. Or, le facteur de victoire de guerre le plus grand, comme ça de la Gemara Totrim HaKot, page 10, est l'étude de Torah. Le verset dit, « Omdot ayu ragalon besharech Yerushalayim. » Nos pieds se tenaient dans tes portes, Jérusalem. Dit la Gemara d'Herbe Yitzhak, grâce à quoi nos pieds se tenaient debout dans la guerre? Grâce à quoi nos soldats y gagnaient? Grâce aux portes de Jérusalem dans lesquelles on a étudié la Torah. On gagne la guerre à cause de Torah. Alors quelqu'un qui peut étudier, il va à l'armée, non assistance, on passe en danger. Mais toi c'est trop tard pour toi, regarde ta chair, que tu as un bon service. Bah, oh, Radona, on va, mais...